La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Pierre-Marie Terral, l'auteur de « François Mitterrand, un roman en français » chez Mareuil Éditions. Bonjour.
Bonjour, Loïc Barrière.
Alors Pierre-Marie Terral, vous êtes professeur agrégé et docteur en histoire. Votre livre n'est pas une biographie classique de François Mitterrand, mais plutôt une géobiographie, puisque vous avez décidé de retracer son parcours à travers les lieux qui ont jalonné son existence. François Mitterrand a été très attaché à plusieurs villes, plusieurs régions. C'est à un véritable Tour de France que vous nous invitez. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez conçu cet ouvrage?
Voilà, ce sont en effet les tours et détours de France de François Mitterrand, une personnalité que j'ai rencontrée lorsque je faisais mes travaux d'historien sur les paysans du Larzac qu'il avait soutenu et à qui il avait donné gain de cause ou gain de cause en 1981. Et je m'apercevais que François Mitterrand avait sillonné ce territoire. Et de proche en proche, je me suis aussi aperçu qu'il connaissait très bien les Cévennes, où il avait non pas des racines ou des ancrages, mais en tout cas, il s'était créé des attaches. Et progressivement, de région en région, je me suis aperçu que ces liens étaient multiples. Également, à la lecture des romans de sa fille Mazarine Pinjot, qui disait que partout où elle passait, son père l'avait déjà précédé sur un livre d'or ou chez un quelconque brocanteur. Donc tout ceci m'a intrigué et m'a conduit à essayer d'interroger ce lien de François Mitterrand et de la France à partir de sa région d'origine, la Charente qu'il affectionnait tant, en passant par Paris où jeune étudiant il monte, comme on pouvait dire encore à cette époque-là. Ensuite, les années de guerre, avec cet emprisonnement qui le conduit en Allemagne, d'où il s'échappe à trois reprises avant d'arriver enfin sur le sol français, mais sur le sol français où il va prendre la direction de Vichy, on y reviendra peut-être, tout en ayant des contacts avec la résistance et avant de passer à la clandestinité. Donc c'est effectivement un itinéraire très riche que le sien, et une connaissance profonde de la France qu'il va mettre à profit politiquement, puisqu'il aura des amis politiques partout, mais il aura également des refuges, des repères, on peut l'écrire de deux façons, des repères secrets qu'il affectionnera sa vie durant. Et donc c'est éclairer la France de François Mitterrand, à la fois celle sur laquelle il a communiqué et celle sur laquelle il a préféré jeter un voile pudique, qui était celle de sa vie privée ou de ses vies privées.
Alors, pour de nombreux Français, le président Mitterrand est associé à sa terre d'élection, la Nièvre, et la fameuse chambre 15 de l'hôtel Au Vieux Morvan. Il y avait aussi la traditionnelle ascension de la roche de Solutré en Bourgogne, sans oublier la rue de Bièvre à Paris, où le président habitait avec son épouse. On a en mémoire ses promenades sur les quais de Seine. Il y a des photos de lui, mais il avait d'autres lieux de résidence comme la bergerie de Latché. J'ai le sentiment qu'il y a presque une mythologie autour de ces lieux qui lui étaient chers, Pierre-Marie Terral.
Exactement, puisque de Latché, dans les Landes, eh bien, il a fait une ambassade d'un homme qui se rêvait président de la République et qui a construit tout son itinéraire autour de cela. Il s'est doté du pendant de la boisserie pour De Gaulle, de ce lieu qui était à la fois un lieu de repos, un lieu de lecture, mais un lieu où il pouvait recevoir tout ce qui comptait pour lui, et notamment en termes politiques. Et d'ailleurs, une fois élu en 1981, il recevra les plus grands dirigeants, y compris Mikhail Gorbatchev, lors d'une visite célèbre qu'il conduira dans les rues de Souston, où il fera connaissance des échassiers landais, par exemple. Donc effectivement, cet ancrage, il va beaucoup communiquer dessus, après avoir d'abord élu domicile à Osgore, où il a d'ailleurs rencontré la famille le père d'Anne Pinjot, puis la jeune âme elle-même. Mais il y a aussi des lieux beaucoup plus secrets, c'est-à-dire qu'on entendait peu François Mitterrand communiquer autour des Cévennes, qui là vraiment était un lieu où il aimait à se retrouver seul, et au détour d'un chemin, il lui arrivait de croiser le paysan du coin qui lui disait « Vous ressemblez beaucoup au président Mitterrand », et lui ne le démentait pas, mais ne confirmait pas non plus qu'il était François Mitterrand, donc il jouait beaucoup de cela. Et des refuges plus secrets encore, comme celui de Gordes dans le Luberon, qu'il préserve tout en donc communiquant sur Latch, eh bien cela permet d'avoir des lieux plus secrets encore, où là les caméras et les appareils photographiques ne sont pas les bienvenus. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir ses affinités littéraires, c'est-à-dire que partout où il passe, il va décrire les lieux, mais il va aussi chercher des amitiés littéraires, ou avec des écrivains vivants, ou plus encore avec des écrivains qui ont vécu dans le Morvan. Il y a évidemment le cas de Lamartine qui va beaucoup l'intéresser, dans les pas duquel il va mettre les siens.
Et il aimait rendre visite à des écrivains bien vivants. Vous citez Antoine Blondin, Duras, Sagan, Tournier, par exemple.
Exactement. C'était quelque chose d'assez surprenant pour moi au départ, puis je me suis habitué à cette sorte de compagnonnage, c'est-à-dire que lorsqu'il va tracer sur sa carte son itinéraire, eh bien, il va au préalable dans sa mémoire, plus que sur des cartes ou sur des atlas, en fait, il va chercher quelles sont les maisons d'écrivains qu'il pourra visiter, quels sont les écrivains de ses amis qu'il pourra aussi visiter, en sachant que être entouré d'écrivains n'étant pas naïf, évidemment, François Mitterrand, eh bien, est aussi un moyen de s'afficher comme l'homme du livre. Et outre la compagnie des écrivains, plus méconnue, c'est celle des religieux, et en tout cas des églises et des chapelles qui vont consteller tous ces itinéraires qui, pour des déplacements politiques, deviennent finalement parfois des pèlerinages d'un cimetière à l'autre où il a ses morts, hein, comme il dit, ou ses grands hommes.
François Mitterrand, Pierre-Marie Terral, a travaillé avec le gouvernement de Vichy, puis il a été résistant. Et là aussi, on peut suivre son itinéraire en France.
Alors, c'est une période de clair-obscur, obscur au début, effectivement, lorsqu'il arrive à Vichy. Il a beaucoup minoré son rôle. Alors là, je me suis prudemment placé dans les pas de grands journalistes ou historiens comme Pierre Péan pour les journalistes qui avaient défriché tout cela. Et ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de reconstituer au jour le jour son passage entre Vichy et la Résistance. Alors ça ne se fait pas justement en un jour, mais il faut avouer que parfois on perd sa trace à ce moment-là. Mais dès l'année 1941 et assurément en 1942, il y a ce double jeu, ce pas de côté à l'égard de Vichy et ce contact avec la résistance, mais tout ça ne m'amène pas à nier qu'il est au départ fasciné par le pouvoir, fasciné aussi par le maréchal Pétain, dont il décrit le beau visage et les yeux d'un bleu pénétrant. Donc tout cela aussi a existé, hein. C'était un très jeune homme, mais ça n'excuse en rien ces choix qui ont été faits à ce moment-là. Ce qui m'a beaucoup amusé par contre, autant on pouvait pas s'amuser de cette période-là, mais ce qui m'a beaucoup amusé, c'est le petit jeu du chat et de la souris de François Mitterrand dans les années d'après-guerre pour éviter de passer officiellement par la ville de Vichy alors qu'il allait rendre visite dans l'Allier à plusieurs de ses amis. Vichy était soigneusement éloigné de son itinéraire lorsqu'il le pouvait, en tout cas on évitait de communiquer sur son passage.
Pierre-Marie Terral, s'il y a un lieu, une ville qui est associée à François Mitterrand, c'est bien Paris, d'abord parce qu'il était habitué à marcher dans les rues de Paris, comme je le disais tout à l'heure. Il aimait par exemple aller voir les bouquinistes des quais de Seine, mais il a surtout laissé son empreinte dans la capitale, plus qu'aucun autre président avant lui.
Exactement, c'est ce que je me disais lorsque je découvrais ce matin les plans de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024, avec comme point de départ du défilé des athlètes la bibliothèque François Mitterrand, eh bien, je me disais justement que cet homme qui avait voulu laisser son empreinte sur la capitale, eh bien, y était parvenu. Il y est parvenu avec cette grande bibliothèque qu'il a réellement souhaité. Il est arrivé aussi avec le Louvre, pour lequel il s'est passionné. On le voyait sur le chantier avec son casque. Il y a aussi une dimension plus intime avec Anne Pinjot, conservatrice des musées, qui s'implique aussi dans ce projet. Donc il y a une véritable vision de Paris avec des colonnes de Buren qui sont plus ou moins bien acceptées à l'époque, qui sont même un enjeu politique avec l'opposition et notamment avec Jacques Chirac, comme l'est la Grande Arche dont le projet initial est finalement plus piteusement inauguré en 1989. Et c'est aussi effectivement 1989, ce bicentenaire de la Révolution, la France qui envoie un message au monde avec Jesse Norman, avec le monde qui était invité à Paris, et un Paris que François Mitterrand a déjà commencé à remodeler à son image en utilisant aussi tous les fastes de la République, mais également ceux de la royauté, n'hésitant pas à convier les grands de ce monde dont il fait partie et qu'il sait faire attendre d'ailleurs pour faire son apparition dans le faste de Versailles.
Pierre-Marie Terral, vous nous racontez dans ces pages les années 80, et je pense à la marche pour l'égalité, surnommée la marche des beurs. Il y a eu aussi les liens du président Mitterrand avec l'association SOS Racisme créée à cette époque.
Exactement, cette marche qui, il faut le rappeler, marche pour l'égalité, qui surprend tout le monde, et bien qui va atteindre son objectif en étant reçu pour certains de ses délégués, en tout cas par François Mitterrand. Il y a ce fameux slogan « Couscous chez Mitterrand », donc François Mitterrand qui fait quelques promesses à ces jeunes gens hein, qui croient d'une certaine façon en sa parole. La création de SOS Racisme également en 1984, donc tout ça c'est une époque importante. C'est aussi la mort de Malik Oussekine en 1986, là aussi d'une certaine façon instrumentalisé par François Mitterrand, qui va rendre visite à sa famille en compagnie du tout récent prix Nobel de la paix, Elie Wiesel. En tout cas, il apporte une parole de réconfort à la famille, mais on ne peut pas s'empêcher d'y voir aussi un geste politique en pleine période de cohabitation tendue avec Jacques Chirac. Donc la prise en compte de la question de l'immigration par François Mitterrand est certaine, et malgré tout ce que j'essaie de montrer dans ce livre, puisque je me suis beaucoup intéressé à l'angle des lieux, hein, c'est que de la banlieue, il ne connaît que bien peu de choses, et notamment les plus proches de ses lieutenants échouent, comme Pierre Joxe, à le conduire en banlieue. Rappelant, je cite dans l'ouvrage Pierre Joxe, il regardait avec étonnement les villes nouvelles comme Cergy Pontoise et Évry, rappelant aussi d'autres de ses proches qui échouent à le conduire en banlieue, alors que il reste un homme de la France rurale, d'une France qu'il voit comme éternelle. Or, c'est bien dans ces ensembles et dans les villes ouvrières que l'on vote pour lui. Donc il y a un décalage entre effectivement l'électorat socialiste qui est le sien et cette France des zones urbaines ou des petits pavillons que décrivait Hubert Vidrine qui vote Mitterrand. D'ailleurs, le malentendu peut-être prend sa source dans cette affiche de 1981, La France tranquille, où François Mitterrand pose devant cette église de la Nièvre, mais cette France-là éternelle ne l'est peut-être pas tant que cela, et d'autres réalités s'offrent à la vue des Français dans les années 1980 et 1990, et François Mitterrand en a saisi certaines. Pour d'autres, malgré une politique de la ville qui se voulait assez ambitieuse, et bien tout n'a pas été fait, sans oublier, et ça c'est pas à moi de le dire plus qu'à un autre, que le jeu avec le Front National a parfois été ambigu ou en tout cas dangereux.
Pierre-Marie Terral, c'est un livre consacré aux paysages français qui ont jalonné l'existence de François Mitterrand, mais vous évoquez tout de même des pays qu'il aimait, et parmi ces pays, il y a l'Égypte. C'est d'ailleurs le dernier pays qu'il a visité avant de mourir.
Il était réellement fasciné par ce pays, qui était certainement la frontière ultime de son univers, puisqu'il aimait beaucoup aussi la Grèce ou l'Italie, ces grands pays de mythologie. Alors c'est aussi certainement l'une des explications de cette fascination pour l'Égypte, où il était reçu avec faste et où on ne manquait pas en France à ce moment-là de le nommer le pharaon, notamment lorsqu'il a voulu construire sa propre grande pyramide. Mais c'est une passion des plus sincères pour l'Égypte et pour Louxor, en sachant qu'il s'était rendu en Égypte dès les années 1970 et pour y rencontrer Sadat. Donc, voulant incarner à ce moment-là un homme qui pouvait être une alternative, un véritable homme d'État, alors qu'il n'avait plus de mandat, en tout cas de fonction nationale depuis l'avènement de la Ve République et de Gaulle, eh bien, il avait aussi voulu fonder sa propre politique, et notamment avec une proximité avec certains leaders arabes, tout en étant un grand ami d'Israël.
Alors on a vu que François Mitterrand aimait se rendre sur les terres des écrivains qu'il affectionnait. On pourrait faire presque un pèlerinage sur les lieux qu'affectionnait François Mitterrand ?
Alors c'est ce que j'ai essayé de faire à ma façon, avec mon appareil photo, avec mes stylos et mes carnets. On peut se rendre en Charente, visiter sa maison natale qui est quand même à Jarnac, un endroit très étonnant où tout est resté, je dirais, familièrement dans son jus, où on peut voir cette famille de la bourgeoisie, mais qui n'est pas une bourgeoisie des alcools, mais du cognac, mais plutôt une bourgeoisie du vinaigre, donc comme dit-on en dessous, une bourgeoisie catholique qui va peut-être aussi nourrir la volonté de François Mitterrand de se forger un destin pour être comme les plus grands de sa ville natale et bien au-delà. C'est aussi aller évidemment à Paris. Alors je n'ai pas pu me faire ouvrir certaines portes, mais j'ai essayé de m'en approcher au plus près. C'est aussi se rendre dans les Landes, comme je l'ai fait, visiter la Nièvre. C'est ce qui m'a le plus fasciné, c'était en effet ces détours qu'il ménageait à chaque meeting ou chaque rencontre qui l'ennuyait parfois profondément pour aller visiter un lieu qu'il affectionnait tant et qu'il avait pu voir 20 fois, 30 fois ou davantage dans son existence. Donc c'est en effet un tour de France toujours renouvelé.
Merci Pierre-Marie Terral. Je rappelle le titre de votre très beau livre, François Mitterrand, un roman français chez Mareuil Éditions. Un livre que je recommande à tous les auditeurs de la bibliothèque de Radio Orient. Merci.
Merci à vous.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.